Alors, c'est un sujet. Bon, d'abord, bonjour à tous. C'est un sujet profondément important, en même temps tellement large. J'allais dire important et en même temps super bateau. Parce que parler d'amour, vous en entendez parler, vous fréquentez des pistes, j'imagine. Donc, mon défi, c'est de faire en sorte que quand vous sortez d'ici, c'est que vous n'ayez pas simplement une prédication supplémentaire sur l'amour, mais que votre humanité puisse être touchée d'une façon ou d'une autre et que vous sortiez en vous disant, ben, je vais essayer ça. Aimer, c'est un peu le nerf de notre vie. C'est même pas simplement une vocation chrétienne, c'est une vocation humaine. Qui n'a pas essayé durant toute son existence d'aimer mieux et qui peut-être n'a pas pleuré de ne pas se sentir aimé. Et ça, il n'y a pas de religion en fait pour ça. Donc je vais vous parler bien sûr de la vocation de l'homme, mais pourquoi est-ce que nous qui avons Jésus, finalement, on a quand même la grâce des grâces aimer. J'aime à dire devant les enfants, les adolescents, que souvent, devant ceux qui ne se sentent pas aimés, il y a un peu deux types de gars dans la classe, ça peut être aussi des filles, hein, mais il y a un peu deux types d'élèves quand on se sent, on n'est pas sûr d'être aimé. Il y a celui qui se met dans le fond de la classe, qui a envie d'être oublié parce qu'en fait, il n'est pas sûr d'être à la hauteur et pas sûr d'être aimé. Et puis, il y a un autre qui rajoute des caisses et qui fait son kéké parce qu'en fait, il n'est pas sûr d'être aimé, qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Peut-être entre les deux. Mais c'est vrai, la question est la même. Est-ce que je me sens aimé? Est-ce que je sais que j'ai la valeur en moi suffisante pour être aimé? Et est-ce que je sais aimer? Bon, en fait, on se pose cette question jusqu'à la fin de nos jours. Avant de commencer, j'aimerais que vous vous posiez vous-même la question. Finalement, pourquoi est-ce que vous voulez mieux aimer? Vous posez cette question, vous y répondez seul. Pourquoi vous voulez mieux aimer? C'est quoi l'intérêt? C'est important de répondre à cette question. C'est quoi l'intérêt? Quel avantage tu vas avoir de mieux aimer? Est-ce que ça peut t'apporter des galères supplémentaires? On peut se le cacher, hein. Mais quand même, si c'est une question fondamentale, c'est que ça nous apporte quelque chose. Mais quoi? C'est important de se le dire. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi est-ce que je veux mieux aimer? C'est quoi? Est-ce que c'est simplement parce que je dois aimer, parce qu'on me l'enseigne depuis petit? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et l'autre question, j'ai posé à Marie, qui est une amie d'enfance, j'ai dit dans la voiture, mais toi, si tu venais un truc comme ça, tu voudrais qu'on dise quoi sur l'amour? Et à juste titre, elle m'a dit, mais j'aimerais qu'on me dise en quoi est-ce que je suis déjà capable d'aimer. Mais c'est vrai. Parce que le danger, c'est que le prédicateur, il vous prêche comme si en fait il savait mieux faire que vous, mais en fait il est comme vous. Qu'est-ce qu'il peut? Et en fait, ce qui est important, c'est que chacun puisse se dire que déjà, en fait, la rampe de lancement, vous l'avez démarrée et vous avez une capacité d'aimer qui est à l'œuvre. Donc, est-ce que vous aimez déjà? Qui vous aimez déjà? Qui vous aimez déjà aujourd'hui? Je vais vous donner mes questions, je vais vous laisser quelques secondes peut-être pour répondre à ça, parce que c'est important pour moi. Sinon, on part. Voilà, je vais vous faire un beau truc. Mais... Qui vous aimez déjà? Pourquoi vous les aimez déjà? Et quelle émotion ça génère en vous? Quand vous aimez, vous sentez quoi? Alors ça peut être de la joie, mais ça peut être parfois de la douleur. Ça peut être parfois de la tristesse, parce que quand on aime, et que, par exemple, on aime quelqu'un et on voit que la personne abîme sa vie, ça peut nous remplir de tristesse. Mais en fait, derrière toutes ces émotions, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je vous laisse. Donc je vous répète, c'est quelques questions qui sont importantes, sinon ce que je vais vous dire va juste être un beau discours supplémentaire. Voilà, d'un prêtre, et en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, une question à me poser, pourquoi est-ce que je veux mieux aimer et est-ce que je veux mieux aimer, parce que peut-être que vous dites, bon, moi ça va. Auquel cas, c'est bien aussi de se le dire. Non, non, ça va. Je sais faire. C'est bon. Ça, voilà. Ça m'intéresse de l'entendre, mais bon, vous avez le droit. Mais c'est important de se le dire. Est-ce que moi ça va? Est-ce que je veux mieux aimer? Et si je veux mieux aimer, pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ensuite, est-ce que j'aime déjà? Qui? Pourquoi? Et quelle émotion j'éprouve? Une prédication silencieuse. Voilà, je vous laisse encore 20 secondes. Ces questions, vous pouvez bien sûr les reprendre ce soir dans votre prière ou demain. Ce qui est certain, c'est que quand j'aime, comme je vous l'ai dit, j'éprouve des émotions qui peuvent être de la joie, même je peux exulter, ça peut être de la tristesse, ça peut parfois me mettre en colère quand j'aime quelqu'un. Ou je peux avoir des peurs que la personne... Bon, en tout cas, toutes ces émotions sont juste la signification, la manifestation que aimer, c'est vivre. Un vivant, il a des émotions. Aimer, c'est vivre. Quand Saint Jean, dans la première épître, au chapitre 3, dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. » Il rajoute « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » En fait, c'est l'expression que quand nous aimons, nous passons à une qualité de vie supérieure. Nous passons de la mort à la vie. Quand nous aimons nos frères, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de vie supérieure. Jésus d'ailleurs le dit, je vous donne la vie et la vie en abondance. Donc aimer, c'est se décider pour une vie, une qualité de vie supérieure. Donc j'aurais envie de vous poser la question, voulez-vous une qualité de vie supérieure? Normalement, on a plutôt envie. Qualité de vie supérieure. Je cite un prof de philo que j'aime beaucoup qui a écrit des livres, Martin Stephen, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Lisez-le. Vous connaissez? Lisez-le. Et il a écrit, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'un de ses derniers, le livre qui s'intitule ainsi, « Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger ». Et je vous cite une petite histoire qui explique qu'en fait, si vous voulez votre qualité de vie supérieure, on va pas aller chercher très très loin. Je vous lis. Une de ses amies, qui faisait partie de l'ordre franciscain, avait des responsabilités à l'échelle internationale. Alors ce que je vais vous lire là, c'est intéressant, vous pouvez faire le parallèle entre ce qui se passe avec l'histoire du Covid, où on est un petit peu limité dans nos déplacements et même dans nos rassemblements, qui ne peuvent plus être internationaux, en tout cas peu nationaux, mais on est invité à rester un petit peu sur place. Alors on peut être déçu, mais écoutez. Donc cette amie de l'ordre franciscain, avec des responsabilités à l'échelle internationale, parfois entre deux avions, elle s'arrêtait à Ratisbonne, visiter Ferdinand Ulrich, un grand métaphysicien allemand, un véritable sage, sinon un saint. Elle partageait avec lui ses rencontres, ses voyages, ses décisions, pour que l'œuvre de Saint François s'épanouisse dans l'espace mondial. Tout à coup, le grand physicien lui déclare 77 centimètres carrés. Elle croit n'avoir pas bien compris. Donc il répète 77 centimètres carrés. Mais quoi ? Dit-elle. Après un silence, il répond à son étonnement. Tu es ici, tu es ailleurs, à Jérusalem, en Afrique, à Paris, à Paray-le-Monial. C'est pas écrit, c'est moi qui rajoute. Et ta mission est bonne. Mais n'oublie pas ça. 77 centimètres carrés. Nouveau silence. Il rajoute, c'est la surface qu'il faut pour planter une croix. C'est l'espace qu'occupait Dieu quand il sauvait le monde. N'oublie pas cela, 77 cm², c'est la surface qu'il faut pour planter une croix, qu'il faut pour le Christ, qu'il a fallu pour le Christ pour sauver le monde. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que une des leçons qui nous est donnée aujourd'hui, où nous pouvons peut-être moins bouger, le Seigneur est en train de nous dire, vous qui vous agitez beaucoup et qui voyagez beaucoup, peut-être que vous oubliez qu'en fait, l'axe, il est là. Vous pourriez chacun vous mettre debout, par exemple. Je vous invite à vous mettre debout. Mais si vous voulez une qualité de vie supérieure, pensez juste à la place que vous prenez là. Bien, c'est là que ça se situe. Je vous invite à fermer les yeux et à penser vos pieds qui sont sur le sol. Vous êtes planté là. Si vous voulez imaginer le Christ en croix devant vous. Vous, vous êtes planté ici, aujourd'hui. Tout à l'heure, ce sera un autre endroit. Mais l'endroit où vous voulez une qualité de vie supérieure se situe là où vous êtes planté. Il ne suffit pas de parcourir le monde, les nations, par quoi notre travail nous l'impose, mais en fait, où que nous soyons, nous n'avons besoin que de quelques dizaines de centimètres. C'est là où notre cœur se situe. Voilà. Vous avez donc le lieu où vous pouvez avoir une qualité de vie supérieure. Parce que parfois on se dit même avec notre tête, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que j'aille ça, il faudrait que je fasse ça. C'est là. Jésus donc nous a appris à aimer. Alors lui, il circulait un peu hein, sur les routes de Judée et de Galilée, mais c'était limité par rapport à nous. Moi, je suis sûr que le bon Dieu, donc c'est pas lui qui a fait l'histoire du livre, pas le mal, mais il se sert de ça pour dire au monde entier, et même aux chrétiens, je suis sûr que ça, je vois bien notre Père du ciel qui dit, bon, maintenant ça suffit les enfants, vous rentrez dans votre chambre. Vous réfléchissez à comment vous vivez. Je pense qu'il y avait un petit peu un truc comme ça. Donc maintenant, vous n'allez plus à l'église pendant 2 mois, vous réfléchissez. Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous faites de l'amour? Qu'est-ce que vous faites de votre famille? Qu'est-ce que vous faites de là où vous êtes? Avant de circuler partout, rentrez dans votre chambre, on se retrouve dans 2 mois. Je pense qu'il y a un petit truc comme ça. C'est vrai. Donc ce qui va m'intéresser, moi, c'est, à travers mon propos, c'est en fait comment je suis ce lieu où je vais aimer davantage et ma qualité de vie, elle se situe là où je suis. Elle ne se situe pas là où l'autre se trouve. Souvent, je pense que c'est l'autre qui fait que ben, si j'aime pas assez, c'est parce que quand même il est comme ci, puis qu'il est comme ça, puis qu'elle est comme ci, puis qu'elle est comme ça, puis que t'es dit. Ben, l'autre, il est à sa place, mais toi, tu es à ta place. Ta qualité de vie supérieure, l'amour supplémentaire, se situe là où tu es. Si je vous dis, vous qui aimez l'Emmanuel et Paray-le-Monial, si je vous dis que l'amour c'est une question de cœur, ça va, rien d'extraordinaire. Mais quand même. Donc nous avons la chance de connaître un Dieu qui, précisément, a planté la croix sur 77 cm², mais qui était donc visible sur ses 2 pieds. On pouvait l'entendre parler, on pouvait le toucher, on pouvait le... Maintenant, nous le recevons nous dans l'Eucharistie, mais en tout cas, nous avons cette chance de croire en un Dieu qui fait que l'humanité est impactée. Donc en fait, je vais apprendre à aimer si mon humanité est impactée, pas simplement ma tête, mais toute mon humanité est impactée par Jésus. Je dois donc regarder ce qu'a vécu Jésus. Mais ça, vous le savez, tout ce que Jésus a vécu, mais on va essayer de voir ce que le cœur, je dis bien le cœur de Jésus, c'est le petit muscle là, ce qu'il a vécu. Parce que dans la Bible, le petit muscle est symbole, bien sûr, de toute la vie, de la capacité d'aimer et des émotions. Mais je vous propose de regarder, puisqu'il s'agit d'avoir une humanité incarnée. Je pourrais vous dire, oui, aimer, et puis vouloir aimer, aimer, et puis prendre des philosophes. Non, non, on va regarder juste la biologie, juste le, puisqu'on parle beaucoup du cœur de Jésus, non, à part le monial, n'est-ce pas? Ben moi, je vous propose de regarder vraiment le cœur, le muscle. Et juste regarder un peu le voyage qu'il a fait sur cette terre. Première chose, il a commencé à être visible, tangible, et à battre dans le cœur de la Vierge Marie. Pourquoi? Voilà pourquoi on aime beaucoup prier la Vierge Marie, parce qu'il n'y a pas eu de cœur plus proche que celui de la Vierge Marie. Même physiquement, il n'y en a pas eu. Entre le cœur de la Vierge Marie et le cœur de son fils, il n'y a aucune personne, sauf que, vous allez voir, aucune personne qui n'a eu un cœur plus proche que cela. Sauf qui?
Le Père.
Non, toi. Quand tu reçois l'Eucharistie. Oui. Et bien sûr le Père aussi. Pardon. C'était parce que je ne sais pas ce que j'avais dans la tête. Mais en fait, bien sûr, Marie a eu la grâce de porter le Fils en son sein d'une façon unique. Mais la proximité du cœur de Jésus, en fait, le même. De proximité. Et dans le cœur de cette femme, il s'est passé comme le cœur de toutes les mamans. Ça, quand j'ai découvert ça, moi, j'ai trouvé extraordinaire. Parce qu'en fait, la biologie nous dit ce qu'est la foi. Le cœur est le tout premier organe fonctionnel. Vous le savez peut-être déjà, mais moi, je l'ai découvert un peu tard, donc je suis content. Mais le cœur est le tout premier organe fonctionnel du corps humain dès le début de la vie utérine, le cœur d'un embryon. Donc pensez qu'en fait, quand vous parlez du cœur de Jésus, ça a commencé par ça. Le cœur d'un embryon humain se forme à partir du 16e jour de grossesse et les premiers battements apparaissent moins d'une semaine plus tard, dès le 22e jour. Eh bien, en fait, notre Dieu est passé par là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le début de notre existence corporelle, le début, ça commence par ce petit truc de quelques millimètres, ce petit truc-là, qui va battre et qui va irriguer le reste pour se former. Et bien en fait, c'est juste une leçon biologique de ce que doit être notre foi. C'est une question de cœur. C'est très beau de voir que la nature nous dit ce que nous sommes. Et donc, le Dieu lui-même est passé par là. Il est passé par ce cœur qui a battu tout petit, mais qui quand même avait... Alors ça aussi j'aime, hein. Je sais pas si c'est ça le rythme, hein, mais vous imaginez bien. Hein? Ça peut rapide?
Plus rapide.
C'est beaucoup plus rapide?
Non, forcément, c'est rapide. Ouais,
ça. Ça? Merci, moi j'ai pas l'expérience. Et je préfère, parce que vous savez pourquoi moi j'aime beaucoup ça?
C'est danseur.
C'est ce qui me fait dire que tout homme, de toute manière, est un danseur. Et toute femme aussi. Et c'est pour ça qu'un enfant, quand il entend la musique, c'est naturel. Il se met devant vous, parce qu'en plus, il n'a pas peur du rire des autres. Il se met devant vous, hop, et puis il se met à danser. Ben, pourquoi? Parce qu'on est né, c'est le. En fait, notre premier signe de vie, c'est le rythme. Bon, bref, je ne parle pas, c'est pas le truc de la prédication. Mais vous voyez quand même. Voilà pourquoi il faut, vous voyez, c'est vous qui dansez comme ça, là, tout à l'heure, hein, extraordinaire. Je dis, ah, c'est bien, mais voilà, c'est ça. Mais oui, c'est la vie. C'est notre nature profonde. Bon, ensuite, ce cœur a grandi. Le corps a grandi. Il est sorti du ventre de sa mère. Et donc, il y a eu une croissance, une maturité, même physique, comme nous devons avoir une croissance et une maturité humaine et spirituelle, et une croissance et une maturité dans l'ordre de l'amour. C'est un chemin. C'est un chemin. Et la Vierge Marie a veillé sur cet enfant qui est devenu un adolescent, qui est devenu un adulte. C'est un chemin. Le Christ, qu'a-t-il fait, en fait, quand on lit après tout l'évangile, ça vous le savez, ben, en fait, il n'a fait que aimer. Mais c'est beau, quand il aime, ça impacte la vie de ceux qu'il peut voir. Il aime, il voit quelqu'un qui est abîmé dans son corps, il guérit. Il aime, il voit quelqu'un qui est abîmé dans son âme ou dans son esprit, il libère, il délivre. Il aime, quand quelqu'un est frappé de la mort, il redonne la vie. En fait, le Christ nous montre ça. Le cœur de Jésus, adulte, montre qu'il aime tellement les autres qu'il les restaure. Le cœur de Jésus qui aime, c'est aussi donc ce Jésus qui a été crucifié. Et l'Écriture dit, il les aima jusqu'au bout. C'est un cœur qui a été transpercé. C'est un cœur qui a cessé de battre. Et oui, la mort fait partie de l'expérience de l'amour. C'est une réalité. Mais la vraie question, c'est comment nous mourons? Et nous mourons comme nous vivons. Si nous vivons en aimant, nous mourrons en aimant. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le cœur du Christ qui s'est arrêté de battre, qui a été déposé dans le tombeau, je vais vous faire quand même, hein. Imaginez dans le tombeau de Jérusalem. C'est ce qui s'est passé. Vous aviez un cœur qui battait, qui s'est arrêté et qui est reparti. Vous voyez, toutes les fois où peut-être vous avez fait l'expérience que c'est quand même difficile d'aimer, quoi. On a parfois même l'impression qu'on va crever. Quand on a le sentiment de ne pas aimer comme il faut, de ne pas être aimé comme il faut. Parce qu'en fait, je suis perturbé quand il y a plein d'allers-retours. Parce qu'en fait, c'est une question d'attention. C'est plus pour vous, c'est aussi pour moi, mais aussi pour moi. Est-ce que je peux vous aider peut-être à déplacer des chaises? Non? Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver, on peut mettre cela là-bas. Comme ça, ce sera fait. Parce que, vous savez, c'est comme les enfants à l'école, il suffit d'une mouche, que finit là. Voilà, merci. C'est trop beau comme sujet. Merci. Donc voilà, de fait, parfois, on peut avoir le sentiment même que notre cœur pourrait s'arrêter de douleur. Le Christ, c'est ce qu'il a expérimenté. Et donc, il a eu ce cœur transpercé pour laisser jaillir la vie. Pensez à toutes les douleurs que vous avez pu vous-même expérimenter, toutes les fois où votre cœur pouvait être serré. Mais en fait, c'est ça aussi, apprendre à aimer. Ça fait partie de la qualité de vie supplémentaire. Je ne veux pas juste vous dire aimer, c'est juste festif, quoi. Non, mais c'est pleinement vivant. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, le Christ, après avoir encore enseigné les apôtres eux-mêmes, est monté au ciel, et ça c'est juste énorme, parce qu'on dit, et c'est écrit dans l'Écriture, que en Dieu il n'y a pas de changement, mais quand même, il y a 2000 ans il y en a eu. En Dieu il n'y a pas de changement, mais quand même. Avant, il n'y avait pas de cœur humain dans la Trinité. Aujourd'hui, il y en a un. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Et ce cœur divin et humain, en fait, vous l'avez et vous le recevez à chaque Eucharistie. Vous êtes lié à ce cœur de par le baptême, de par la confirmation. C'est juste. Donc, vous avez, chacun a la capacité d'avoir cette qualité de vie supérieure. Vous l'avez. Donc, maintenant, la question, c'est alors, comment je vais donc apprendre à aimer, puisque Jésus dit, aimer comme je vous ai aimé. Donc nous savons ce qu'il faut, mais ça vous le savez déjà, c'est apprendre à aimer comme il nous a aimé. Mais bon, en même temps, c'est pas la première fois que vous entendez ça, et c'est pas si simple que ça, n'est-ce pas? Aimer comme Jésus. Alors, je pourrais vous parler de trois choses. Je vais en choisir deux. Bon, aimer comme il nous a dit de le faire, en fait, c'est aimer déjà. C'est la première leçon, c'est déjà aimer ceux avec lesquels nous vivons. Après, je pourrais vous parler, mais je suis pas sûr que j'ai le temps, d'aimer celui que j'appelle mon prochain. C'est-à-dire, je vis pas forcément avec lui, mais en fait, je le côtoie, c'est comme le bon samaritain. Et ensuite, le high level, c'est aimer mon ennemi. Bon, celui-ci, je vais le mettre de côté parce qu'il est vraiment... oui, si j'avais le temps, peut-être tout à l'heure à la messe, je ne sais pas. Mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ce choix? Parce que je ne peux pas résumer aimer mon ennemi si déjà j'ai du mal à aimer juste ma famille, celui qui a mon boulot, mon curé. C'est... Je ne peux pas supposer que je vais aimer celui qui me fracasse la tête, qui peut peut-être même me tuer. Si j'apprends pas juste à aimer ceux qui me mettent pas en danger de mort, mais qui sont juste là, avec lesquels je vis, qui pourtant, parfois, je les trouve insupportables. Moi, hein, mais... Peut-être vous, je pense que c'est... aimez donc comme il nous aide, comme il nous a dit de le faire. Je regarde alors le Christ. Pour moi, il y a une clé, c'est une clé... une clé majeure que je comprends dans l'Écriture. Jésus nous enseigne à aimer le grand, la grande leçon de l'amour, c'est à partir de Jean 13 jusqu'à la fin de Saint Jean. Jean 13. Mais voilà, c'est quoi? C'est le Seigneur dit, il les a aimés jusqu'au bout, et ensuite il lave les pieds de ses disciples, qu'il n'appelle plus simplement ses disciples, ni même ses serviteurs, mais ses amis. Donc, comment je vais apprendre à aimer? Soyez un ami du Christ. Et que ceux qui sont avec vous dans votre famille même, votre épouse pour les maris, votre épouse doit être votre ami, bien sûr. Vos enfants sont vos enfants, mais il y a une sorte aussi d'amitié en Christ. Ceux que vous côtoyez, vous devez cultiver, ceux avec lesquels vous vivez comme Jésus a côtoyé, cultiver cette relation d'amitié avec ses disciples, nous devons cultiver l'amitié avec ceux qui nous entourent. Mais voilà, attention, il s'agit de faire comme Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bassine, il a mis son tablier, il y avait une image avec le tablier tout à l'heure. Il a mis son tablier et il a commencé à laver un premier disciple, les pieds du deuxième disciple, puis les pieds du troisième disciple, puis il est arrivé devant Judas, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pas dit... là, tu... J'allais dire, tu déconnes grave, mais en fait, un peu. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va laver les pieds de son ami, Judas. Parce que je vous rappelle qu'il n'est pas dit dans l'évangile que Jésus a dit, je vous appelle tous mes amis, sauf Judas. Je vous appelle tous mes amis, sauf celui... Non, je vous appelle tous mes amis. Puis il lave les pieds du premier, du deuxième, du troisième. Marthe Robin dit même, explique ce passage. Elle dit que c'est... Elle prend le temps où Jésus se retrouve devant Judas, son ami, qu'il a choisi pour être son disciple. Mais son ami a décidé de le trahir et de le faire tuer. Et Jésus alors prend le temps de le regarder vraiment, de le fixer du regard. Marthe Robin dit même que c'est ce qui a été le plus douloureux dans la passion de Jésus. Ça n'a pas été la croix, etc. C'est le fait de voir le cœur de Judas qui s'est détourné de lui. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de Judas. La qualité supérieure, elle était là où Jésus était. C'est à lui de décider. Est-ce que Judas, tu l'envoies bouler ou tu le fais lapider par les autres? Tu dis du mal de lui ou tu décides de faire comme Jésus, de considérer que c'est toujours ton ami mais qui a fait un autre choix et que toi tu fais un autre choix que le sien, c'est de rester fidèle à l'amour. La décision d'aimer n'appartient pas à l'autre, ça nous appartient à nous. Et ce que nous ne pouvons pas séparer, lorsque Jésus fait cela avec les disciples et qu'ensuite il dit dans Saint Jean, vous devez faire de même parce que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Vous voyez, le commandement nouveau, presque même ceux qui ne côtoient que très très peu l'Église sont capables de dire, quel est le grand commandement de Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Presque tout le monde le dit. Mais c'est aimez-vous les uns les autres et faites comme j'ai fait. C'est aimez-vous comme je vous ai aimé. Et comment est-ce possible? Peut-être que certains d'entre vous disent non, mais ça c'est déjà pas possible. Non, je vais parler, ce sera mon autre propos après. Mais tu vivras ce en quoi tu crois. Si déjà tu n'y crois pas, tu ne vivras pas. Soit tu penses que Jésus t'appelle à une qualité de vie supérieure. Et si Dieu t'appelle à une qualité de vie supérieure, il te donne les moyens de le vivre. Dieu ne nous appellerait jamais à quelque chose sans nous donner les moyens de le vivre. Et qu'est-ce qu'il nous donne pour, comme moyen pour le vivre? Ben, c'est Jean 14, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est donc celui que tu vas recevoir en toi. C'est celui qui va brûler ton cœur, comme les disciples d'Emmaüs, lorsque le Christ nous expliquait les Écritures, est-ce que notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas apprendre à aimer comme Jésus. Mais permettez-moi de vous faire une petite confession, qui date depuis quelques années, mais qui me perturbe beaucoup. À en croire les écrits du pape François et ses homélies, je pense que c'est quelque chose qu'il travaille aussi beaucoup. Ce que je suis en train de vous dire, il s'agit de l'authentification du Christ dans l'Église. En fait, les gens reconnaissent que le Christ, qui a quelque chose, qui a quelqu'un supplémentaire, non pas à tous les discours que nous allons faire, non pas au nombre de messes que nous allons célébrer, mais juste à la façon dont nous allons nous aimer. Eh bien, je vous fais une confession. Je suis interpellé presque du matin jusqu'au soir. Je me dis, si nous, les chrétiens, nous avons celui que nous disons, Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. Je suis désolé. Moi, je veux voir la différence dans les communautés chrétiennes. Si, dans les communautés chrétiennes, il n'y a pas plus d'amour qu'ailleurs, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et des fois, je réalise qu'ailleurs, il y en a qui s'aiment plus en Jésus. Et là, ça ne me laisse pas tranquille. Pas vous? Si nous qui croyons que Jésus est venu visiter l'humanité par amour pour nous sauver de tout ce qui nous abîme, de la mort et du péché, de tout, en fait, du fond, c'est-à-dire je ne sais pas aimer, je ne sais pas aimer où on n'a pas su aimer. Si Jésus est celui qui vient me sauver, je veux voir dans les communautés chrétiennes qu'alors il y a une qualité de vie supérieure. Et la qualité de vie supérieure, c'est pas simplement les belles liturgies que moi j'affectionne particulièrement, mais c'est juste comment on s'aime. Et là, c'est l'ancien curé de paroisse, mais aussi le confesseur dans les foyers de charité qui a la grâce d'écouter à la fois des chrétiens en paroisse, des religieux et des prêtres. Je dis, mais quelle galère! C'est pas possible. Où est Jésus? Vite! Où? Je me dis, mais c'est pas possible. Où est Jésus? Celui qui dit aux chrétiens, aimez-vous comme des amis, comme j'ai fait. Et même si madame Intel t'a fait une crasse, tu dois lui laver les pieds. Ah non, mon père, mais c'est pas possible. Ah ben alors, faites-vous, je sais pas quoi, changez de religion. Si c'est pas possible. Comment ça c'est pas possible? Si Jésus dit, si Jésus te dit un truc et tu adhères à Jésus, mais que tu dis c'est pas possible, ferme la Bible, va te coucher, réveille-toi quand tu es plus fatigué. Non. Mais oui. Parce qu'en fait, c'est là où Jésus nous dit, est-ce que tu entres dans la qualité de vie supérieure? Est-ce que tu la veux? Moi, je veux te la donner. Moi, je veux te la donner. Et ça, personne ne peut prendre cette décision à notre place. La décision d'aimer même. Nous aimer, j'ai deux grosses blagues que je cite toujours parce que elles sont très drôles, elles sont vraies. Donc la première blague, c'est une dame qui en confession me dit, moi je peux pas, il y a quelqu'un que je peux pas supporter, etc. Je déteste, non. Et donc je dis, moi comme j'aime faire, c'est écrit dans l'évangile, ben, vous prierez pour votre ennemi, vous prierez pour votre personne, la personne que vous détestez le plus. Bon, là la personne fait, ah non, si madame, parce que Jésus dit, enfin. Et donc la personne s'approche de moi et dit, ah mon père, c'est vous. Je trouve ça extraordinaire. Je me suis, j'ai fait comme vous, j'ai rigolé en fait. J'ai éclaté de rire. Je trouve ça tellement beau qu'elle ose simplement me le dire. Et surtout qu'en plus, je suis sûr qu'elle a prié pour moi. C'est peut-être grâce à elle que je. Bon. Et puis alors l'autre, c'est j'ai découvert ça. Attention, quand je dis ça, ça veut dire que j'y arrive. Mais en tout cas, parfois il peut se faire que dans les paroisses, de fait, les gens ne s'aiment pas. Alors moi, quand j'étais jeune prêtre, j'ai pensé que arrivant en paroisse, donc décidant de quitter un métier que j'aimais, que je n'aurais pas de famille, pas d'enfants, etc., que je donnais ma vie pour Jésus-Christ et l'Église, que j'arrivais un peu comme le sauveur de l'Église et que tout le monde m'aimerait dans la paroisse. Ça a duré une semaine. Bien sûr, j'ai bien vu que c'était pas du tout le cas. Et même parfois, lorsque vous faites et vous prêchez ce que Jésus veut, vous n'êtes pas aimé même de ceux qui sont dans votre église. Et là, j'étais profondément blessé. Je me dis, comment c'est possible? Jésus m'a juste fait comprendre. Il me dit, mais quoi, t'es disciple? Tu veux être mon disciple? Pourquoi? Bah, parce que je veux te suivre. Tu veux me suivre juste quand c'est agréable? Ou tu veux me suivre jusqu'au bout? Il y a la croix, c'est la mort. Et en fait, tu deviens mon disciple quand toi, tu décides d'aimer même quand les autres ne t'aiment pas. Sinon, tu fais comme les païens. C'est ce qui qualifie le chrétien. Ce qui qualifie le chrétien, c'est qu'il... Je ne dis pas qu'il y arrive, mais qu'il a envie. Voilà pourquoi je vous ai commencé par vous faire poser la question. Pourquoi? Quel avantage vous voulez le faire? Vous voyez? Je parlais du sportif, mais je pense au danseur, mais le sportif en général. Le sportif en général, qui va faire des entraînements, qui parfois vont être douloureux, parfois il va être fatigué, il va être douloureux, mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il sait qu'il a un avantage supérieur. C'est qu'en fait, grâce à ça, il a son orientation de vie et il sait qu'il veut, je sais pas, gagner une médaille, il veut bien lancer, il veut être libre. Et en fait, la liberté ne s'acquiert que dans l'exercice de ce que j'ai décidé, même si parfois c'est difficile. Dans l'ordre de l'amour, c'est pareil. Il faut regarder l'objectif. C'est quoi? C'est la vie. Une vie, qualité de vie supplémentaire. Parce qu'en fait, dans tout ce que je vous dis, l'enjeu, c'est la liberté intérieure. Quand tu n'arrives pas à aimer celui qui te fait une grâce, c'est qu'en fait, le Seigneur te dit, je veux te rendre libre par rapport à lui. Tu n'y es pas encore. Et donc, le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il fallait que je donne l'autorisation à ceux qui ne m'aimaient pas de ne pas m'aimer. Remarquez, ils n'en ont pas besoin. Hein? Mais moi, qu'est-ce que ça m'a soulagé? Tu veux pas m'aimer? Ben, t'as le droit, en fait. Pourquoi je me fais des nœuds au cerveau? T'as le droit. Judas, Jésus lui a dit, vas-y, fais ce que tu as à faire. T'as le droit. Mais moi, je prends le droit de continuer à apprendre à t'aimer. Qualité de vie supérieure et liberté intérieure. Ce qui nous ne pouvons pas séparer, c'est cet appel à l'amour comme Jésus. Jean 14, c'est impossible sans le Saint-Esprit. Et là, je fais un hommage à tous les martyrs d'aujourd'hui dont on parle très peu, que ce soit en Orient ou même en Afrique. Il y a tant de martyrs et même de beaucoup d'âges. Pourquoi sont-ils capables de livrer leur vie? Pas par amour pour Jésus-Christ. En fait, les martyrs d'hier et d'aujourd'hui sont juste brûlés par l'Esprit Saint. Ils ont de liberté intérieure même devant la mort et même devant les ennemis. Et chapitre 15, la joie. Si aimer ne te rend pas plus joyeux, ça va être trop galère. Tu vas lâcher. Marthe Robin m'a beaucoup frappé parce que dans son journal, alors qu'elle était traversée par l'amour, par la croix de Jésus pour tous les hommes et l'Église, dans son journal, elle parle beaucoup de la joie et il y a plus de fois le mot joie que le mot croix. Chez Marthe Robin. Et beaucoup de ceux qui allaient la voir disaient qu'est-ce qu'elle était joyeuse. Elle parlait très peu de ses douleurs. Mais quand on sortait, même si c'était quelques instants, on ressortait plus joyeux. Ce qui fait, vous savez, ça, je dis ça aux chrétiens, hein, un des moteurs de notre progression, c'est juste que nous prenons plaisir et qu'il y ait de la joie. Je dis ça à des gens, mon père, je voudrais prier, mais j'y arrive pas. Hein? Ok, d'accord. Je voudrais aimer plus, mais j'y arrive pas. Hein? Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu veux faire pour aimer plus? Pour aimer plus et pour prier plus? Je vais prier, je vais demander à Dieu de m'aider. Hein? Tu l'as pas déjà fait depuis 40 ans, 50 ans? Ça marche ou pas? Bah ouais, de temps en temps, quand je sors de retraite, puis après, hein, d'accord. Mais sinon, pourquoi est-ce que tu veux prier davantage et pourquoi est-ce que tu veux aimer? Bah, parce que c'est bien, enfin, c'est comme ça. C'est dit dans l'évangile, c'est... Ouais, mais en fait, ça va pas te suffire. Si tu ne sais pas l'avantage que ça va te donner, Tu vas faire ça par devoir. Ça va tenir un mois, 2 mois. Mais il faut que tu découvres qu'en fait, t'as un avantage personnel à le faire. Ça va te motiver. Que prier, c'est pas juste tu dois prier. C'est qu'en fait, t'as une grâce de prier, d'être avec ton Père. Et qu'en fait, ça te donne une liberté, ça t'apprend à vivre. T'as une sagesse que tu n'auras nulle part ailleurs. Le Saint-Esprit descend sur toi. Et là, tu dis, mais non, c'est pas juste parce que je dois. C'est parce qu'en fait, ça me donne une qualité de vie supérieure. Et l'amour, c'est pareil. Qualité de vie supérieure. J'ai envie de ça. C'est pas juste je dois aller dire à des jeunes maintenant, si tu dois aimer ton prochain parce que c'est écrit, tu dois. Ça va bien aller jusqu'à à peu près 12, 13 ans, 14 ans, ça va commencer à se gâter. En fait, il faut que le devoir soit pétri de cette. Parce que Jésus, vous voyez, c'est bon quand il nous enseigne, il n'est pas juste, vous devez aimer, de fait, vous allez souffrir, c'est vrai. Mais en même temps, il dit quoi? Vous allez abandonner vos familles, etc. Mais vous allez recevoir au centuple. Ok, vous allez parfois avoir la croix, mais vous allez avoir une joie abondante. Ok, parfois, vous allez être trahi, mais en même temps, vous aurez une vie en abondance. Oui, Jésus dit pas juste galérer, galérer, parce que parfois quand on regarde les chrétiens, c'est plus t'en baves, plus tu crois. Jésus, c'est pas ce qu'il dit, hein. Il c'est pas un menteur, c'est pas un faux prophète. Il dit pas, ça va être super simple, vous allez voir. Mais si tu fais ça, tu choisis la vie. Et moi, ce que je te promets, c'est une vie en abondance, c'est la joie parfaite, c'est la paix et d'être rempli de l'Esprit Saint. Et c'est ça que nous devons avoir dans le cœur. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que Jésus te promet. C'est cela qu'il te promet. C'est pas juste tu dois. C'est prendre la promesse qui est la tienne. C'est la promesse d'une vie. Nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons nos frères. Décidez maintenant, là où vous êtes, de passer de la mort à la vie. C'est un chemin. Voilà, je crois que je vais devoir arrêter parce qu'il est déjà 33. C'est terrible. J'aurais tellement de choses à vous dire. Je continuerai à l'Arménien. C'est une assaise. C'est une assaise pour moi. Mais c'est bien. Non, mais déjà, vous voyez, retenez quelques affaires comme ça. On va faire juste un petit, on n'a pas parlé en musicien, il est pas là. Mais juste, je vais faire une petite prière, comme ça. Tenez-vous sur vos deux pieds, on va reprendre l'exercice qu'on faisait. Mettez, une ou deux de vos mains sur votre cœur. On va faire une prière. Voilà, Seigneur, ma vie a commencé là où je pose mes mains. Ce cœur qui bat aujourd'hui sans même que je ne m'en aperçoive est le premier organe vital qui a été visible et audible. Et c'est celui qui a irrigué tout le reste pour former le reste de mon corps et donc de ma vie. Seigneur, je te demande, lorsque je vais te recevoir dans l'Eucharistie ou par une bénédiction, de comprendre que ce cœur ne sera jamais plus proche que le tien, aussi proche que celui de la Vierge Marie. Que le Saint-Esprit brûle ce cœur qui est le symbole de ma capacité d'aimer et d'une vie supérieure, d'une qualité de vie supérieure. Saint-Esprit, nous demandons la grâce, brûle nos cœurs, réchauffe-les, rends-les joyeux et libres d'aimer. Amen. Merci.
Merci Père pour ce travail. J'espère que vous avez été remué au moins autant que moi. Si vous en êtes d'accord, on peut peut-être demander au Père Franck d'accélérer un petit peu notre repas, parce que nous parlons à 14h30, et puis nous redire encore.